Bonjour à tous et merci d'avoir choisi Radio Capi qui vous propose Parole aux auditeurs. Le 29 mai de chaque année, le monde célèbre la journée internationale des casques bleus de l'ONU. C'est l'occasion pour l'organisation d'honorer les casques bleus qui ont perdu la vie au service de la paix. En RDC, les casques bleus sont présents et opérationnels depuis 15 ans maintenant. Plusieurs d'entre eux ont aussi perdu leur vie dans les zones en proie d'insécurité des groupes armés. Certains observateurs estiment que c'est également l'occasion de porter un regard sur le travail de ces casques bleus en RDC. Quel est votre avis? Rejoignez-nous au 081-890-6315 pour une intervention en direct. Mais le débat, c'est aussi sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Mimi Kindou est à la mise en onde de ce magazine. Et Julie Feza Bungunda est au standard. J.R. Lungembo est à la réalisation et coordination. Et Pierrot et la Meiji vous les présente sous la supervision de Martin Seboujangwe. Fidèle auditeur, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-6315 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, Pierrot et la Meiji.
La journée internationale des casques bleus de l'ONU, commémorée chaque année le 29 mai, selon la résolution 57/129, rend hommage au professionnalisme, au dévouement et au courage des casques bleus qui servent dans des conditions difficiles. C'est aussi l'occasion de rendre hommage à la contribution inestimable des casques bleus et d'honorer plus de 3400 soldats de la paix qui ont perdu leur vie en servant sous les drapeaux des Nations Unies depuis 1948, dont 129 l'an dernier. Rappelons qu'aujourd'hui, plus de 124 militaires, policiers civils sont déployés dans 16 opérations de maintien de la paix sur les 4 continents. Et les casques bleus sont en RDC, pas seulement pour la période de cette mission de maintien de la paix, mais ils ont été aussi dans l'histoire de la RDC avec les Nations Unies. Et nous faisons le point d'une manière globale sur le travail des casques bleus, mais particulièrement pour la situation de la RDC qui a été concernée par des conflits armés depuis une décennie. Quel est votre avis sur ce travail qu'accomplissent les soldats de maintien de la paix ailleurs et en RDC en particulier? Tout à l'heure, nous allons avoir en direct de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga le professeur Emmanuel Banyuesizé qui est le directeur de l'école de gouvernance économique et politique ECOPO Lubumbashi. Vous avez besoin d'intervenir en direct, rejoignez-nous au 081-890-6315. C'est le numéro d'appel pour les interventions en direct dans ces magazines. Nous avons John qui nous appelle des Bouillants dans la province de l'Ituri. John, vous êtes avec nous, bonjour et bienvenue.
Bonjour, merci.
Et pour vous, quel regard vous portez sur le travail des casques bleus et en RDC, en Ituri particulièrement, où Bouna était aussi concerné par des conflits armés?
Moi, au regard des travaux abattus par les casques bleus de la MONUSCO, moi je trouve que ce sont des défenses inutiles que les Nations Unies sont juste en train de chercher d'embaucher les êtres humains qui sont passés par là des chômeurs, mais aussi comment consommer leur budget. Ce sont des organisations qui sont tentées juste à détruire la sécurité du monde. Si les Nations Unies n'étaient pas là, je me demande s'il y aurait du moins insécurité dans le monde entier. Vous trouverez que ce sont les Nations Unies qui coordonnent les opérations de destruction par-ci par-là. On vous dira que n'atteignez pas, par exemple, telle zone. Il y a des rebelles par-ci par-là. Par exemple, les FRDC en bataille, on vous dit que les Nations Unies, les casques bleus, ils sont parmi les militaires de la nation et parmi les rebelles, et ils vous disent d'arrêter, stop, ça continue pas. Je trouve que ce sont des gens qui contribuent juste pour la destruction de la sécurité de la nation, et personnellement, je conseillerais qu'ils s'en aillent du pays.
Vous savez, vous estimez, quand vous regardez la situation de l'Ituri après les années de 98-2000 jusqu'en 2016, vous estimez que ce sont les casques bleus qui ont continué à détruire la sécurité et plutôt ils n'ont pas contribué au rétablissement de la situation en Ituri.
Madame, messieurs, excusez-moi, dites-moi d'où ces militaires, ces rebelles, puisent leurs armements, d'où ils puisent leurs munitions. Est-ce que vous avez une réponse pour cela? Vous trouverez que nos militaires de FRDC, ils ont des tenues vieilles, pendant que ceux-là de la milice, ils ont des nouvelles tenues et des armements spécifiques suffisants. Comment vous justifiez ça? Et vous trouverez que, par exemple, en Ituri, on était en train d'égorger les gens, pendant que ceux de la casque bleue, des casques bleus, ils sont là, ils font rien, et il ne faut que regarder et contempler, quelquefois même prendre des images.
Pour vous, ce n'est pas les casques bleus n'ont rien fait en Ituri, Bounia, où vous êtes. Merci de cette lecture, John. Merci de votre lecture, Claude. Vous êtes à Isiro. Vous êtes avec nous, Claude. Bonjour.
Bonjour, Pierre. Bonjour à tous les auditeurs de la radio.
Oui, Claude, avez-vous cette impression, comme le disait tout à l'heure John de Bounia, que pour lui, quand il regarde l'histoire de la RDC et de l'Ituri en particulier, pour lui, les casques bleus n'ont rien fait. Selon la lecture, il souhaiterait même que les casques bleus se retirent, parce que pour lui, il s'étonne qu'on tue les gens et que quand il regarde cette situation d'Ituri, rien n'a été fait.
Oui, M. Pierrot, là, nous commençons d'abord par saluer la mémoire de tous ces militaires volontaires de l'ONU qui versaient leur sang et tombaient dans le champ le champ de bataille pour la cause des peuples congolais et surtout ceux de Beni, de Bounia qui sont toujours touchés par des atrocités par-ci par-là. Alors je voulais dire ceci, les bilans qui font les values en termes de bilans, les bilans peuvent être mitigés en quelque sorte que ces militaires sont d'abord des volontaires, ils se sont sacrifiés pour le pays et vous voyez combien est plus important que les interventions sont louables sur le terrain en termes d'appui logistique et en termes d'intervention militaire. En tout cas, ça, nous devons les reconnaître. Et deuxièmement, nous pouvons aussi dire qu'ils ont failli en quelque sorte à leur mission, comme elle a si bien déploré l'intervenant de Bounia en disant que les milices ont fait tous leurs bénédictions. Ils sont là, ils sont sur place, et vous voyez des fois les enlèvements se font sur place, c'est là où les casques bleus sont. Alors, nous, on se demande s'ils vivent en intelligence avec ces milices ou ils sont en complicité avec eux. C'est comme elle a souligné l'intervenant, le premier intervenant, il a dit les miliciens là ont des tenues, tout neuves, ils ont des armes, ils ont des munitions. Mais on se demande où est-ce qu'ils trouvent ces munitions, où est-ce qu'ils trouvent tout ça. Alors que les casques bleus sont là, ils pourraient seulement mettre fin à cette histoire, monsieur le journaliste. En tout cas, on ne sait pas trouver la réponse par rapport au modus operandi de ces milices, alors que les casques bleus sont là.
Alors, quand vous dites, Claude, qu'on enlève les gens en présence des casques bleus, cela veut dire quoi? Quelqu'un vient dans un village, il trouve que les casques bleus sont assis, il y a des gens qui sont à côté d'eux, on les enlève pendant ce temps et ils les regardent. Ou bien vous dites qu'on vient opérer dans une zone où les casques bleus opèrent, alors que dans cette même zone, on arrête, on enlève les gens, on attaque les gens, ou on attaque les gens en leur présence pendant qu'ils sont là, ils tentent de regarder comment on attaque les gens et on les enlève et ils ne font rien. Entre les deux, comment vous pouvez préciser votre pensée?
Bien entendu, hier, monsieur Pierrot, lorsque par exemple on prend un village qui est ciblé et les casques bleus sont là, on dit par exemple, c'est la radio, car nous voyons cette radio chaque fois, je suis parmi les fidèles, les auditeurs de cette radio, on dit les munitions opéraient à quelques kilomètres où se trouvent les casques bleus et aussi les militaires congolais. Alors on se demande, qu'est-ce qu'il y a au juste, qu'est-ce qui se passe au juste? Je vais juste dire que l'hydrosphère n'est pas là où le lieu où les casques bleus se trouvent, mais à quelque distance où les casques bleus se trouvent.
Mmh.
Alors, c'est ce qui nous explique bien.
Merci beaucoup. Là, vous avez quand même apporté une nuance. Vous dites qu'ils opèrent à quelque distance là où se trouvent les casques bleus. Merci beaucoup, Claude Dissiro. Nous allons à Lubumbashi, au studio de Lubumbashi, où nous avons notre invité qui est en ligne, le professeur Emmanuel Benoué-Sizé. Bonjour, professeur.
Bonjour Pierrot, bonjour les auditeurs de Radio Okapi.
Et nous faisons le point aujourd'hui sur les travaux de casque bleu. C'est la relation entre la RDC et l'ONU, une relation qui a commencé aux petites heures de l'accès à l'indépendance. Et la grande question que les gens se posent aujourd'hui, c'est par rapport à l'efficacité des opérations de maintien de la paix, du travail des casques bleus d'une manière particulière. Alors, beaucoup de gens, comme vous l'avez suivi, les deux auditeurs qui estiment que le travail de paix n'est pas assez efficace. Mais si on peut retourner en arrière, faire un petit point historique sur la relation entre la RDC et les Nations Unies dans le cadre de maintien de la paix et les rôles des casques bleus dans notre pays, avant que nous puissions aborder la question particulière de ces travaux, comment l'apprécier pendant cette période.
Alors, merci beaucoup. J'ai suivi les auditeurs de tout à l'heure. Alors, on peut noter que la relation entre la République démocratique du Congo et les missions des Nations Unies, en fait, remontent déjà au lendemain de l'indépendance. Parce que la première mission des Nations Unies est intervenue au Congo sous la dénomination de l'ONUC en 1960 pour éviter le chaos en République démocratique du Congo, pour rétablir l'ordre public, pour rétablir la sécurité et la paix, et surtout éviter la balkanisation du pays et donc l'éclatement de la République du Congo à l'époque. Puis il y a une deuxième mission qui est intervenue donc dans les années 1900, donc au tournant des années 2000, et qui est là depuis maintenant 17 ans. C'est la deuxième fois donc que les Nations Unies viennent à la rescousse de la République démocratique du Congo. Et cela doit être reconnu que par deux fois, en fait, la République démocratique du Congo a dû avoir son salut et a dû maintenir son unité nationale, l'intégrité territoriale et recouvrer sa souveraineté internationale grâce aux interventions des forces des Nations Unies, d'abord sous forme de l'ONU et ensuite sous forme de la MONUSCO. Bon, mais c'est grâce aussi à la présence des Nations Unies que nous avons pu, en 2006, on s'en souviendra, organiser les élections, les premières élections démocratiques en République démocratique du Congo. Cette institution internationale a accompagné notre pays, on doit les savoir, pour mettre sur la même table les protagonistes, les belligérants de l'époque, et faire en sorte qu'on puisse mettre en place, on s'en souviendra, un gouvernement de 1+4 qui a permis de sortir de la crise et surtout d'organiser des premières élections démocratiques dont l'objectif était de refonder l'État congolais, de refonder la République. Donc c'est grâce à la présence de ces troupes des Nations Unies que nous avons refondé la République en 2006. Et ça, on doit les dire et à haute voix, et les Congolais doivent. Maintenant, si on examine l'évolution de ces forces-là, on peut noter qu'ils sont confrontés à un problème majeur. Il y a comme une sorte d'impuissance, bon, certains ont décliné ça, il y a une sorte d'impuissance des casques bleus sur le terrain actuellement, mais cela ne l'est pas totalement imputable à elle seule. Il faut savoir que les forces des Nations Unies interviennent dans un contexte complexe en République démocratique du Congo, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, aussi bien nationaux qu'internationaux, qui interviennent dans les crises en République démocratique du Congo. Il y a plusieurs belligérants, ce qui concerne notamment la partie est de la République, parce que c'est là que viennent beaucoup de critiques, essentiellement à Beni, au nord Kivu, et d'une certaine manière au sud Kivu.
Mm-hmm.
Mais les jeunes qui sont là-bas, et les gens qui vivent là-bas, nos concitoyens, doivent savoir qu'il y a plusieurs protagonistes dans les crises qui sévissent dans les provinces de l'Est. Et que donc l'impuissance qu'on peut observer je vais dire plutôt la perte d'efficacité des forces des Nations Unies là-bas, des casques bleus, et ils expliquent par le fait qu'il y a un chevêtrement de beaucoup d'acteurs qui ont des relais jusqu'à Kinshasa, jusque dans les instances du pouvoir. Toutes les rébellions qui saisissent à l'est du Congo, toutes les forces qui se battent ont leurs représentants jusqu'à Kinshasa. Et cela complique la situation sur le terrain des casques bleus. Voilà ce que je peux dire à ce niveau-là, mais je pense que ce n'est pas parce qu'il y a une efficacité de ces forces-là qu'il faut penser qu'elles doivent absolument partir. Lorsqu'on aime la paix, on ne doit pas haïr la police, on ne doit pas haïr l'armée, et on ne peut pas en même temps en train de rechercher la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo, et notamment à Beni, et globalement dans la province du Nord Kivu, et demander que les forces qui viennent nous appuyer pour qu'on rétablisse la paix partent. On ne peut pas à la fois rechercher la paix et haïr la police et haïr l'armée. On doit bien, au contraire, faire en sorte qu'on travaille ensemble, qu'une synergie se mette ensemble entre la population et les casques bleus qui sont sur terrain, qu'une confiance renaisse, mais d'autre part, entre les casques bleus, entre les forces sur terrain et les autorités congolaises, parce qu'il y a une rupture de confiance entre, d'une part, la population congolaise et les casques bleus sur terrain, mais d'autre part, une situation quand même un peu délicate entre les autorités congolaises et les casques bleus. Je pense que c'est ça, il faut travailler dans ce sens-là pour faire renaître cette confiance-là.
Et professeur, vous avez évoqué qu'il y a des pesanteurs, hein, la situation est souvent complexe dans des conflits armés, et surtout par exemple dans notre pays, mais on sait que le travail des casques bleus, c'est de venir en appui à la force, à l'armée nationale. Alors, est-ce que le travail de casques bleus dans un pays, particulièrement dans une situation comme la nôtre, peut-il être très efficace s'il y a des failles au niveau de l'armée nationale, parce que ces militaires viennent en appui à l'armée nationale?
Bon, alors, ce qu'on peut noter, c'est que, et on doit les reconnaître, c'est un fait objectif, jusqu'en 2006, les forces des Nations Unies, la MONUC et puis la MONUSCO ont accompagné notre pays, comme je l'ai dit, dans sa reconstruction. D'abord pour mettre fin au conflit, pour faire en sorte que les protagonistes se retrouvent, et faire en sorte qu'on organise les premières élections démocratiques, dont, je le rappelle, l'objectif était de refonder l'État, parce que souvent les jeunes, notamment dans les provinces de l'Est, oublient qu'il fut un temps dans notre histoire où le Congo n'existait plus vraiment comme république. Le pays était tenu en otage par des bandes armées, par des groupes armés, et que donc notre souveraineté était déjà perdue. Et que c'est grâce à la présence des Nations Unies et à travers l'intervention des casques bleus et de ces forces que nous avons pu en fait refonder la République à travers les élections de 2006. Donc maintenant, même jusqu'en 2011, la MONUSCO a accompagné notre pays. Seulement, les élections qui se sont déroulées en 2011 ont été entachées d'irrégularités, et ces irrégularités ont été reconnues par tout le monde. Et là, il y a eu une rupture de confiance entre les autorités politiques de la République démocratique du Congo et les forces des Nations Unies sur terrain. Bon, cela fait que donc, il y a eu des désaccords autour de certaines nominations des officiers congolais qui devaient être affectés dans la province du Nord Kivu. Cela a conduit à une crise et qui a conduit aussi à une rupture de confiance entre donc les forces armées congolaises de notre pays et les forces des Nations Unies. Bon, moi je pense que ce que la situation aussi du Nord Kivu a démontré, c'est que lorsqu'il y a une coordination, il y a une conjugaison d'efforts entre les casques bleus au Nord Kivu et les forces armées congolaises, on arrive à des situations de victoire réelle. Ça a été déjà démontré au Nord Kivu que lorsque ces deux forces ont conjugué leurs efforts, ils ont dû bouter dehors les gens qui occupaient notamment des localités dans le Nord Kivu et la ville de Goma aussi. Et que donc, si l'insécurité persiste, je dis bien que cela n'est pas imputable exclusivement aux casques bleus. Parce qu'il y a d'une part notre pays qui doit penser et savoir que la protection de ses citoyens incombe d'abord à notre pays. Lorsqu'on n'est pas capable de se défendre, d'assurer la situation, la sécurité de ces populations, il vaut mieux qu'on ne s'appelle pas État. Mais puisque nous sommes un État, nous avons l'obligation de défendre nos citoyens. Ces gens-là ne sont pas des rats qui doivent mourir chaque jour. Non, ils doivent être protégés, ils doivent être... on doit respecter leur dignité. Et cela ne peut se faire que si, d'abord, la confiance renaît entre les Nations Unies, à travers ces forces qui sont sur le terrain
dans l'Est,
et les forces armées congolaises. Et ça, vous le savez, cette confiance dépend d'une volonté politique. Il faut qu'il y ait un déclic au niveau politique, parce que dans les grandes instances de notre pays, il y a peut-être, me semble-t-il, des forces négatives qui sont hostiles, parfois excessivement, à la présence des forces des Nations Unies, et qui pensent que si ces forces quittaient la République démocratique du Congo, bon, ils feront eux-mêmes le travail, mais ce n'est pas évident
à l'heure actuelle
des forces armées.
Voilà. On va revenir à vous, on écoute Maître Adrien qui est à Kananga. Bonjour, Maître.
Bonjour Pierrot, bonjour à monsieur l'invité.
Et alors, comment, quand on regarde l'évolution de nos débats, chaque fois quand on parle des casques bleus, il y a quelques années, il y avait quand même à un certain moment une opinion assez positive et favorable, mais au fur et à mesure que la situation évolue, des fois, on se rend compte qu'il y a cette réaction un peu, on dit, c'est des fois mitigée. Pensez-vous que le problème de la compréhension du travail que les casques bleus font, c'est de la responsabilité de la mission elle-même de pouvoir aller vers la population pour expliquer, enfin, qu'on ait un certain regard dans ce travail qui est fait, Maître Adrien?
Oui, Pierrot, mais je pense que vous avez totalement raison, parce que nous nous rendons compte qu'il se pose un sérieux problème d'information. La population congolaise ne comprend pas bien la mission donc, des casques bleus, parce que certaines personnes croient que le casque bleu doivent se situer au gouvernement congolais. C'est là que nos amis de casque bleu, et pourtant, je me rappelle bien, dans les années 2005-2006, ils avaient quand même cette initiative-là, donc d'aller vers la population, de faire comprendre la population leur propre mission. La population elle-même sait que la sécurité des personnes et de leurs biens, il s'agit là donc d'un pouvoir régalien, donc d'un gouvernement donc comme le nôtre. Donc s'il n'y a pas des efforts de ce côté-là, on ne peut pas jeter l'anathème sur donc les casques bleus, qui du reste ont eu à abattre vraiment un travail de titan que je conduis vraiment à leur dire merci. Là, c'est donc le premier aspect. Le deuxième aspect, nous devons tous donc rentrer sur les objectifs qui étaient assignés au casque bleu. C'était quoi? C'était donc de réunifier le pays, c'est comme le professeur l'a dit. Je partage au moins à 90% ce que les profs venaient de dire, parce qu'ils ont eu à faire avec brio donc tout ce travail. Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai, il y a des poches de résistance du côté de la province du Nord Kivu, Beni, Butembo, Rutshuru, ainsi de suite. Et c'est là que maintenant je suis en train de lancer un appel vibrant vis-à-vis des cartes bleues, parce qu'il y a eu des résolutions prises, et la dernière c'est 2277. Si on pouvait mettre en exergue toutes les résolutions pour que les cartes bleues puissent maintenant s'impliquer, parce que j'ai comme l'impression que les cartes bleues, à un certain moment, avec les colibés qu'on jette à gauche, à droite, avec la demande renouvelée à un certain moment par le gouvernement, c'est comme si les casques bleus se sont un tout petit peu découragés, ils ont reculé, parce que lorsque nous voyons le récurrent massacre qui se répète à tout moment, selon les rapports, on dit que c'est à quelques mètres de leur poste, à quelques mètres des postes de la police et à quelques mètres des postes donc de phare d'essai. C'est comme ça que moi je préfère de mettre en exergue donc cette résolution venue pour protéger réellement la population à ce côté-là, mais aussi avec certains dérapages que nous voyons. Et ici, je m'en vais leur dire merci par rapport au travail qu'ils ont eu à abattre. Ils ont prié dans la ville de Kinshasa, parce que si il y a eu vraiment ce qu'il y a eu, c'est suite à leur implication. C'est ce que nous, population, nous demandons. Au lieu d'abandonner la population à son triste sort, il faut possible. Ce n'est pas faire comme ce qu'on a vu hier à Kananga, lorsque on prend même la police de proximité. On veut opposer cette police-là à la population. Et moi, je me suis dit, quel contraste, parce qu'il n'y a pas longtemps, on a mené, nous sommes battus pour sensibiliser la population de cohabiter avec cette police de proximité. Mais lorsqu'on va dans des manifestations, on prend cette police-là pour sécuriser la population, je me dis, là, nous voulons... Mmh.
Ça, c'est une autre paire de manches. Je crois que c'est un débat que nous avons eu il n'y a pas longtemps, Maître Adrien. On a eu les débats autour de la police, l'encadrement des manifestations, mais vous déplorez ce qui est arrivé. C'était hier à Kananga. Mais pour revenir à notre sujet, vous avez dit que vous saluez le travail abattu par les casques bleus, mais vous estimez aussi qu'il y a un travail d'information qui doit être fait, apporter l'information à la population sur ce que les casques bleus font exactement selon leur mandat. Et vous auriez souhaité voir que ce mandat appliqué d'une manière plus robuste au Nord Kivu. Rappelons quand même qu'il y a plus d'une semaine que les casques bleus, les FARDC ont lancé des opérations contre les ADF, les groupes armés dans cette zone de Beni. On l'avait dit d'ailleurs quand on a eu l'émission consacrée à la lutte contre l'insécurité dans cette province. Merci beaucoup, Maître Adrien. Élie, vous êtes en Bandaka. Bonjour à Élie.
Oui, bonjour, messieurs les journalistes.
Et pour vous, le regard, oui, le regard oui. Que vous portez sur les travaux accomplis par les casques bleus.
Oui, voilà, merci. Je remercie la radiographie. Je remercie aussi les prédécesseurs qui ont déjà intervenu sur ce sujet-là. Nous sommes vraiment tellement contents de ce sujet que vous aviez conçu, voilà. Et puis, quand on parle des casques bleus, ce sont les forces de l'ordre provenant des autres États. Ils sont venus pour soutenir la sécurité congolaise. Et puis, lorsque nous regardons proprement dit la vérité démocratique de la sécurité congolaise, il y a surtout des embuscades, il y a surtout de la gravité. Pourquoi il y a un problème dans l'est de notre pays, à Beni surtout, monsieur le journaliste. Là où règne la recrudescence d'insécurité, un gâteau de mortalité de la population congolaise. Alors, quelle est vraiment l'importance des casques bleus? L'ONU est là pour soutenir la force de la RDC. Moi-même, moi, ici, dans notre province de l'Équateur, là où nous vivons en Bandaka, il y avait certainement une crise et une insécurité totale qui menaçait la population de l'Équateur de Mbandaka. Moi, personnellement, j'étais victimisé. On m'avait attaqué par les Kuluna, on m'avait attaqué par les terroristes. Et quand j'ai fait appel à la police congolaise de venir m'assister pendant cette nuit, il n'y avait aucune réponse. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez, on est tenté de marginaliser la population congolaise, on disait les casques bleus, il faut faire appel aux autres forces de l'ordre étrangères, il faut faire appel à des MONUSCO qui sont venus nécessairement pour bouffer l'argent de notre pays. Qu'est-ce qu'ils font au juste?
Alors pour vous, Élie, vous estimez qu'en Bandaka, quand les Kuluna vous ont attaqué, il a été vraiment nécessaire que les casques bleus viennent vous secourir?
Oui, voilà, c'est ça l'importance des casques bleus dans un pays.
Ça veut dire que les casques bleus puissent couvrir tous les Congolais dans tous les lieux.
De la force congolaise.
Merci beaucoup, Élie, de nous avoir appelé de Mbandaka. Maître Omar, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, Pierre Lamigé. Bon début de week-end à tous les auditeurs de la radio Capi.
On vous écoute. À quel niveau, Maître Omar, on peut dire qu'il y a une crise qui s'est installée entre la conception de la population avec le travail que font les casques bleus quand on regarde l'immensité de la situation, l'immensité du pays, ce qui a été fait dans les provinces où il y avait encore des guerres, des troubles jusqu'à ce moment? À quel niveau la crise s'est-elle installée entre la perception de la population sur le travail que font les casques bleus?
Merci beaucoup, Pierre Lamège, pour votre excellente question. Mais je voudrais avant tout dire que parmi les conditions qui font un État, c'est aussi sa capacité de défendre sa population et ses frontières. Lorsqu'un État ne sait pas bien le faire, il ne faut pas s'attaquer aux visiteurs qui viennent nous aider. Avant tout, j'irai hommage, moi, pour ce qu'on puisse dire. C'est vrai qu'il y a des familles parfaites au monde, mais il faut rendre hommage à quelqu'un qui a quitté sa famille et pour venir servir un pays qui ne lui appartient pas au nom de la paix au monde. Aussi, je transmets mes sentiments de compassion aux populations touchées, notamment à Béni et à Ituri, comme on le dit maintenant. Parlant de l'ONU maintenant, des casques bleus, mais je dis comme c'est leur anniversaire. Il faut noter, selon l'histoire, que avant il y avait une capacité défensive. Le rôle de l'ONU ou la vocation de l'ONU n'est pas de remplacer l'État. L'État demeure souverain et c'est lui qui a la pleine responsabilité de défendre sa population. L'ONU, avant la résolution 2098, qui a été prise par le Conseil de sécurité, n'était là que pour se défendre. À l'époque, les casques bleus ou la MONUSCO n'avaient qu'une capacité défensive. Et avec cette attitude, on ne pouvait pas avoir un résultat pour moi parce qu'elle n'intervient pas pour défendre les gouvernements ou défendre les belligérants, il intervient pour protéger les civils. Mais depuis la résolution 2098, on a donné au casque bleu la capacité, au fond, c'est-à-dire, de ne pas se limiter à défendre, mais aussi à attaquer. Il faut se poser la grande question. Est-ce qui fait que malgré la présence des casques bleus, on puisse encore vivre des postes de tension dans quelques territoires de la nation? Moi, je pense, Biro et Lamèche, la première chose, c'est le manque de convergence dans les commandements. Vous avez suivi l'année dernière où les casques bleus ont rompu leur collaboration avec les FARDC. Comment voulez-vous que l'ONU puisse intervenir aussi longtemps que les casques bleus et les FARDC n'ont pas une même unité de commandement? Vous avez suivi lorsque l'ONU a dit que si on ne respecte pas les droits de l'homme, on ne travaillera pas. La première cause qui fait que malgré leur présence qu'on ne puisse pas marcher, c'est aussi cette manque de convergence des commandements. Deuxième chose, Monsieur Kuro et la Meji, ce qui fait la force d'une équipe, ce n'est pas le talent des joueurs, c'est la capacité de travailler ensemble. Il n'y a pas unité. Que voulez-vous que les casques bleus fassent si aussi longtemps qu'au niveau de l'armée interne, il y a des prêtres? Quelqu'un a dit ici, est-ce qui fait qu'un conglomérat de 300 personnes puisse avoir des armes bien munies, puisse avoir des nourritures chaque jour, s'il n'y a pas de prêtres au niveau interne? Ce qui bloque les Congolais, ce n'est pas qu'on marque l'armée, les casques bleus ne font rien, mais on peut bien planifier aussi longtemps qu'il y a des prêtres au niveau interne, on ne marchera pas. Autre chose, aussi longtemps qu'il y a la présence d'intérêts étrangers dans les territoires africains, on aura toujours les problèmes. On a reçu la fois passée le chargé de maintien de l'ONU, celui qui vient après Ban Ki-moon. On a déploré aujourd'hui l'incapacité de l'ONU de maintenir la paix au monde. Vous devez savoir que ceux qui composent les conseils de sécurité sont des grandes puissances mondiales. À part l'aspect théorique qui veut que l'ONU puisse défendre la nation, il y a aussi un aspect politique important. Aussi longtemps que les grandes puissances ont leurs intérêts dans les territoires africains, il y a un problème à se battre. Je peux me conclure en disant, M. Kuro et Lamèche, le vrai problème, c'est qu'ils doivent travailler ensemble. C'est-à-dire qu'il y ait une même unité de commandement. Ils doivent collaborer. Deuxième chose, on ne doit pas croire ou croire aux gens que le cas qu'on veut au monde peut remplacer l'armée. Nulle part au monde.
Merci. Merci beaucoup, Maître Omar. Merci beaucoup, Maître Omar. Là, on est en train de vous perdre petit à petit. Merci à vous. Vous estimez que, d'abord, il faut le dire, c'est dans votre propos, les casques bleus ne peuvent pas venir remplacer une armée nationale dans aucun pays, ça peut se faire. Mais en RDC particulièrement, si, dans le regard que vous portez sur le travail des casques bleus, il faudrait qu'il y ait une synergie, une unité de commandement et une collaboration pour que le travail soit plus efficace sur terrain. Merlu Singa, qui nous a écrit de Kananga, pour apporter une petite lumière par rapport aux avis de mes frères, je pense que les casques bleus ne les ont pas convaincus. Je leur demande de s'apaiser, sinon, s'ils était leur appui, le M23 continuerait à exister jusqu'alors. Mais le problème des Congolais, c'est les Congolais eux-mêmes qui doivent définir ce qu'ils doivent faire, car le bonheur et le malheur des Congolais, c'est entre ses propres mains. Moïndo Luc Cambéré de Béni, il est possible que les casques bleus ne bénéficient pas un soutien total de la part des autorités du pays, surtout le gouvernement central. Tantôt, lorsque l'ONU publie un rapport qui accuse certains militaires congolais d'être en connivence avec des groupes armés, et là on a une divergence de vue conduisant les deux partenaires à suspendre des fois la collaboration dans les opérations conjointes. Même de la part de la population qui comprend qu'il y a un rapport qui cite certains membres des FARDC dans une compromission, et alors ça devient difficile de pouvoir faire confiance ni à l'armée, alors de ce qui doit être fait. Mais rappelons quand même qu'il y a 80% de la paix gagnée à travers le pays, c'est grâce aux Nations Unies, à l'intervention de les casques bleus. Kairi Matembere et Kalemi, tout en saluant le travail réalisé par les casques bleus dans le monde et dans mon pays, la RDC en particulier, j'implore l'organisation d'une cour constitutionnelle internationale pour protéger non seulement les civils, mais aussi les constitutions qui, après, voilà, il revient sur la situation de la RDC avec les débats autour de la cour constitutionnelle. Jean, vous êtes à Fougourmé, Victor en Bazangungu, vous gardez la ligne, on revient à vous le temps que le professeur puisse réagir. 081-890-7315 pour intervenir en direct.
Chaque vendredi de 19h15 à 20h, l'avocat vous propose la tribune de la presse. Analyse, explication et débat autour de l'actualité de la semaine avec les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. La tribune de la presse, vendredi de 19h15 à 20h, un résumé complet de l'actualité de la semaine. Une émission à réécouter sur internet, radiocapu.net.
Professeur Emmanuel Banuessizé, vous avez suivi les auditeurs. Quand Omar évoque tout à l'heure le mandat, le fait de protéger les civils, il y a plusieurs fois, quand je regarde les débats sur la page Facebook, les gens qui reviennent sur le chapitre 7, où ils estiment qu'il faut appliquer à certains moments à la force pour que les casques bleus soient au devant de la scène. Mais il faut quand même s'inscrire dans une logique des géopolitiques hein, dans notre sous-région, par exemple, avec tout ce qu'il y a comme ramification autour de la guerre dans les Grands Lacs, les intérêts, et comme le disait Maître Omar, les intérêts étrangers sur le sol congolais, et tout ça, ça ne peut pas aussi faciliter les États membres à prendre la décision pour interpréter ou appliquer tous ces différents textes qui permettent aux casques bleus d'être plus efficaces et de faire le travail comme il faut, professeur Emmanuel.
Oui, enfin, j'ai suivi l'intervention de tout à l'heure, enfin, les deux interventions de tout à l'heure. Alors, on peut noter, et notamment parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les critiques les plus, enfin, les plus acerbes viennent des provinces de l'Est, et notamment au regard de la situation à Beni et globalement dans la province du Nord Kivu. Mais il faut savoir que cette province-là, elle se trouve au cœur d'une géopolitique complexe. Et cette géopolitique fait converger, mais aussi diverger à la fois des intérêts politiques, des intérêts économiques, des intérêts militaires. Et donc il y a beaucoup d'intérêts qui s'enchevêtrent là-bas, dans cette province du Kivu, globalement. Donc, que ce soit le sud Kivu ou le nord Kivu, je sais de quoi je parle parce que je suis originaire de cette province-là. Mais ce sont des provinces aussi qui sont livrées quand même à la précarité, où il n'y a pas eu beaucoup d'investissements de l'État pour faire en sorte que les jeunes sortent de la misère et de la pauvreté. Bon, cela fait finalement que beaucoup de jeunes, malheureusement, pensent que la guerre était moyen de trouver un emploi facile et de réaliser une mobilité, en tout cas sur une vaste étendue du territoire, de pouvoir circuler et de pouvoir tirer des bénéfices, parce qu'ils sont livrés à la chômage et à la précarité. Et c'est ainsi que vous pouvez les remarquer que beaucoup de rébellions se sont développées dans ces provinces-là et ont pu recruter dans la catégorie sociale la plus démunie, la plus délaissée, notamment la jeunesse. Bon, et ça, la plupart de ces jeunes sont peu instruits, ils ne connaissent pas la géopolitique du monde, ils ne connaissent pas la géopolitique de l'Afrique et encore moins la géopolitique du Grand Lac. Bon, alors, quand vous êtes dans ce contexte-là, et comme je l'ai dit, où la plupart des rébellions qui naissent là-bas ont leurs ramifications jusqu'à Kinshasa, ils ont leurs représentants jusque dans les sphères de Kinshasa, tout devient compliqué. Mais on est là aussi dans un contexte où beaucoup d'armées interviennent. C'est pas seulement l'armée congolaise qui intervient sur le terrain. Il y a aussi des armées étrangères qui, même si elles sont déjà parties, gardent toujours des ramifications sur ces terrains-là. Donc on est vraiment dans un contexte très très difficile à cerner sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, mais aussi sur le plan social. Maintenant, les gens souhaiteraient que, en application du chapitre 7, on puisse se défausser sur les casques bleus. Et c'est là qu'il y a un danger, précisément. Et c'est le danger que les jeunes qui s'en prennent à la MONUSCO devraient éviter. C'est que finalement, on a détourné l'attention de ces jeunes-là
vis-à-vis de ceux qui doivent assurer leur sécurité, qui doivent assurer leur survie. Parce que ces jeunes-là ont besoin d'un emploi, ils ont besoin d'une bonne formation pour avoir du travail, pour s'insérer dans les circuits économiques et sociaux de notre pays. Bon, mais on a réussi à détourner leur attention pour leur faire voir que s'ils sont en insécurité, c'est par la faute des casques bleus des Nations Unies. Alors que d'abord, c'est la République qui doit sécuriser ses frontières, qui doit sécuriser sa population. Et sécuriser ici, ce n'est pas seulement sur les plans policiers et militaires, mais c'est aussi sur les plans socio-économiques. La sécurité doit englober tout cela. C'est sur les plans socio-économiques qu'il faut sécuriser ces jeunes-là pour qu'ils ne cèdent pas des tentations de rébellion et des mouvements extrémistes qui continuent à prolonger l'insécurité et la violence dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Donc je pense que pour ma part, il ne s'agit pas trop de s'attarder sur le fait qu'il y a aujourd'hui une impuissance militaire des casques bleus sur le terrain et que cette impuissance militaire s'est double d'une impuissance de la MONUSCO à pouvoir influer sur la politique, sur les décideurs politiques à Kinshasa. Mais il faut se concentrer sur qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que l'on sorte de la spirale de violence au Nord Kivu et Sud Kivu et qu'effectivement les casques bleus puissent accomplir efficacement leur mission. Et comme je viens de vous le dire, les jeunes devraient éviter de trouver dans les casques bleus un bouc émissaire facile sur qui il faut se défoncer. Et cela, on a réussi franchement à détourner leur attention pour leur montrer que si ça ne marche pas, si vous n'êtes pas en sécurité, ce n'est pas la faute du gouvernement, c'est la faute des casques bleus qui sont là-bas. Et que si jamais les casques bleus partaient, la paix va revenir, la sécurité va revenir. C'est là le piège, justement. Parce que nous sommes en train d'assister à des citoyens qui sont transformés en mort civile, c'est-à-dire des personnes qui sont, on appelle mort civile, des personnes qui sont pratiquement condamnées, qu'on a condamnées, mais qu'on refuse d'exécuter, ou des personnes qu'on ne met même pas en prison, on les laisse circuler librement, mais ils sont privés de tous les droits. On les appelle des morts civiles. On voit émerger une catégorie déjà qu'on peut considérer comme des morts civiles. On voit une diffraction sociale doublée d'un rétrécissement des libertés et des droits de l'homme. Mais cependant, c'est pas là qu'on dit aux jeunes, non, écoutez, il faut vous en prendre au casque bleu, il faut qu'ils partent pour que la paix revienne. C'est justement les pièges dans lesquels on cherche à les entraîner pour qu'on nous fasse rentrer en arrière.
Merci. Jean, vous êtes à Fungurume, mais bonjour Jean. Jean, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, Firo. Je vous appelle depuis Tenkepa à Fungourou, mais plutôt à Tenke.
Ah oui, c'est à Tenke. Merci, Jean, d'être avec nous dans cet échange. Nous faisons le point sur les regards que nous avons en cette journée dans des célébrations. Bien sûr, c'est le 29, la journée internationale des casques bleus, parce qu'ils ont été en RDC, ils sont encore sous le sol congolais. On fait le point sur notre regard, sur le travail qu'ils ont fait et qu'ils continuent à faire.
Vraiment, de mon côté, je dirais d'abord, nous Congolais, nous devons être reconnaissants, dire ne serait-ce que merci d'abord pour ce travail qui a été fait, parce que d'où nous venons, là où on en est aujourd'hui, et peut-être voir aussi là où on va, on doit reconnaître que le casque bleu ont fait un travail énorme. Ne serait-ce que dans la dissuasion de plusieurs crimes qui devaient être commis, dans ces pays, ils ont été là pour dissuader, mais presque qu'on en fait déjà par dissuader. Mais maintenant, je vais parler à trois volets. Le premier volet, c'est le volet politique de leur rôle en tant que Nations Unies dans notre sol. Nous pensons que sur le plan politique, ils n'ont pas, c'est là où plutôt ils n'ont pas vraiment joué un grand rôle, j'estime. Il y a eu des lois qui ont été votées au niveau de Nations Unies à New York pour que aujourd'hui nous puissions évoluer dans le projet la mission qui était au préalable la MONUC au début. Aujourd'hui, hier ils étaient une observation. Aujourd'hui, ils peuvent même aller au-delà de l'observation, agir. C'est déjà un effort, c'est déjà un pas. Mais il fallait pas attendre toutes ces années pour évoluer dans le sens
de maintenir la paix en RDC. C'est vrai, le professeur nous relève plusieurs aspects, tels que les aspects économiques comme politiques. Mais qui doit mettre la pression sur ces lobbies ou ces hommes politiques qui influencent la guerre en RDC? N'est-ce pas les grandes puissances réunies au sein de l'ONU? Nous pensons que c'est à eux de jouer ce rôle-là, justement parce qu'ils savent, à partir de la MONUSCO, il y a plusieurs rapports qui sont montés au niveau des Nations Unies, relevant, montrant même l'implication des uns et des autres, même de pays voisins, dans la guerre qui se vit en RDC. Dans ces plus de 6 millions de morts que nous avons aujourd'hui déplorés. Mais est-ce qu'aujourd'hui il y a une pression, je dirais une pression politique réelle, pour ne plus influencer, pour que ces bras noirs qui partent de pays voisins ne viennent plus interférer dans le problème du pays? Je ne pense pas qu'il y a un effort considérable qui est fait dans ce sens. Mais si nous revenons aussi sur le plan politique au pays, nous connaissons tous les belligérants, nous connaissons tous ces gens qu'aujourd'hui on leur donne la place d'honneur parce qu'ils ont tué à l'est du pays. Mais qui devait faire pression? C'est vrai que sur le plan politique, je vais dire, voilà, tous ceux qui ont tué les gens là-bas, ils devaient aller en 1+4 pour devenir des premiers ministres ou sinon de vice-présidents dans ces pays. Oui, ils ont fait, mais est-ce qu'on devait s'arrêter par là? Est-ce que les gens ne doivent pas savoir qu'aujourd'hui, après avoir tué, ils doivent payer des factures pour les sangs qui ont coulé? Non, ça fait rien effet sur le plan politique déjà, sur la diplomatie ou le plan politique. L'application des Nations Unies dans notre pays a été en dessous de la moyenne. Et si on va aussi sur le plan armé, les Nations Unies, avec tous les moyens qu'ils ont dans l'armement, à combien, à quel niveau ils ont appuyé la RDC pour faire face à la guerre qui se vit dans notre pays? J'ai peur de dire que je ne sais pas ce qu'ils ont vraiment donné. Ils ont utilisé des drones, on a vu, pour traquer les M23. Mais est-ce que la RDC, l'armée, la FARDC, on ne serait-ce que des drones? Mais on a dépensé beaucoup d'argent dans ce pays pour cette mission. Mais pourquoi ne pas convertir cet argent-là carrément à un soutien militaire considérable qu'on doit remettre à l'armée et qui doit faire le travail régulier de maintien de la paix pour l'intérêt de la population nationale? Je crois que ça n'a pas été fait. C'est pour cela que je me dis, aujourd'hui, il faut prendre ces bilans un peu d'une manière fractionnée. D'un côté, le travail qui est fait sur le terrain, le pauvre militaire qu'on voit qui sillonne notre route, qui par moment meurt à cause de ces pays, ils font leur boulot de dissuasion, ou sinon ils vont même là où il y a des problèmes. Mais maintenant, c'est sur la stratégie de l'ONU pour maintenir la paix d'une manière réelle. C'est ça qui n'est pas fait, à mon avis. Mmh. Et là, il y a un sérieux problème. Mmh. Là, on dira que le bilan n'a pas été celui-là qu'on attendait. Et du fait qu'à entrer, on dira qu'aujourd'hui, le bilan égale plus de 6 millions de morts. C'est ça qu'on a comme bilan en RDC.
Merci. Merci beaucoup, Jean. Vous estimez qu'il y a des choses qui devaient être faites sur les plans politiques qui n'ont pas été faits, que ce soit aussi dans l'appui logistique au FARDC, leur fournir, n'est-ce pas, le matériel et l'appui nécessaire. Sinon, ça risque de conduire à ces conclusions du genre les bilans en dessous de la moyenne selon votre intervention. Merci beaucoup, Jean, de nous avoir appelé des Tinké. Victor, vous êtes en Banzangungu. Bonjour, Victor.
Bonjour, merci beaucoup pour la parole que vous m'accordez.
On vous écoute.
Je pense que la géopolitique, la géostratégie, c'est très important, mes prédécesseurs en ont parlé. Et ceux qui financent toutes ces missions des Nations Unies, ce sont ces grandes puissances et qui ont des intérêts dans les différents pays où il y a des matières premières telles que la République démocratique du Congo. Donc, c'est un peu difficile si aujourd'hui les Congolais doivent croire que la solution viendra des Nations Unies. C'est une force qui vient à l'appui, c'est vrai, mais il faudrait que les Congolais, nous-mêmes, nous puissions prendre conscience. Parce que même en 1960, tout à l'heure, vous avez parlé Le professeur a fait l'historique, je ne suis pas professeur au chiffre des travaux, il a fait l'historique, même en 1960. Et finalement, le pays, il y a eu toutes ces rébellions, toutes ces sécessions et consorts. Et après, on est même passé à la dictature. Et tout ça, c'était pour soutenir, à l'époque de la guerre froide, pour qu'il y ait quelqu'un, un dirigeant de leur tendance, des tendances occidentales. Donc, la géostratégie, la géopolitique, il faudrait vraiment que les Congolais comprennent. Si c'est pédagogique, l'émission, il faut chercher quelqu'un qui doit expliquer ça. Les jeunes doivent comprendre cela, donc c'est à nous de prendre conscience. Aussi, essayons un peu de voir. Il y a la Somalie, il y a par exemple récemment le Mali, il y a Haïti. Ce sont des pays que je connais très bien. J'ai des amis qui habitent ces pays-là. Mais je ne sais pas quel est le résultat de la mission des Nations Unies, de l'intervention des Nations Unies. Ce sont des résultats vraiment mitigés. Et quand on voit, c'est toujours des zones économiquement stratégiques, toutes ces zones-là. Donc, les Congolais doivent comprendre. Maintenant, la mission propre en RDC. Cette mission, on nous fait... c'est une mission de stabilisation. Moi, je pense que les Nations Unies doivent revenir à leur à l'attribution, je ne sais pas, du rôle des Nations Unies. Parce que stabilisation, mais c'est lorsqu'on a acquis un certain niveau. Mais aujourd'hui, la situation en RDC... C'est vraiment dégradé, hein.
Mais Victor, si on peut quand même regarder, quand on regarde en 99, le temps que la mission arrive, la situation de la RDC après la guerre de 98, en passant par 2000-2001, les Sun City, jusqu'à avoir quand même un gouvernement de transition et des élections, pensez-vous que la situation est la même aujourd'hui? Elle s'est dégradée par rapport à ce qu'elle était quand la mission est arrivée, ou elle s'est dégradée parce qu'elle était stable avant l'arrivée de la mission et que maintenant elle s'est dégradée? Comment vous la situez par rapport à l'arrivée de la mission en 99 jusqu'en ce moment, Victor?
Oui, c'est vrai qu'à l'époque, c'était une situation presque généralisée et qu'aujourd'hui, on parle de soi-disant poches de résistance. Mais quand on voit la stratégie utilisée par les différentes forces, par exemple vers Beni, moi je suis au Bas-Congo, mais quand j'entends qu'on a égorgé à machette, à coups de machette, à coups de bâton, 50, 60, 40 personnes, c'est une autre façon de faire la guerre. Donc la situation, c'est réellement, il y a eu un grand changement. Mais malheureusement, par rapport à la stratégie militaire utilisée, la barbarie utilisée par ces forces actuellement, c'est devenu plus compliqué. Donc c'est pourquoi je dis il faudrait qu'on voie
quel
rôle on doit donner. Mais je voudrais terminer pour dire aussi que il faut qu'au niveau des Nations Unies, on fasse réellement une évaluation pour la mission en RDC. Parce que 17 ans après... Quand on voit les résultats qu'on a, moi je pense qu'il y a de quoi se poser des questions. Et même dans des pays d'où viennent ces missions-là, j'ai des amis au Guatemala, en fait, qui ont envoyé des missions ici, mais même dans leur pays, ils se posent la question réellement sur le rôle de leur mission, parce qu'il y a eu des journalistes guatémaltèques qui sont arrivés et qui ont été dans cette mission-là, et quand on tirait, c'était, je ne sais pas, à l'est, je ne sais pas, vers Beni ou où, quand on tirait, on demandait à la mission de pouvoir replier, et le journaliste avait pris ces dires-là, et il a balancé ça sur leur chaîne de télévision. Comment voulez-vous des gens qui viennent protéger, et quand il y a attaque, on leur demande de se replier? Donc moi, je crois qu'il y a un problème, mais nous, Congolais, nous devons prendre conscience. Il faudrait vraiment que nous-mêmes nous puissions nous dire, eh bien, nous arrêtons cette guerre, nous arrêtons cette tuerie, nous arrêtons cette barbarie au niveau des finances, que nous devenions des hommes sérieux, capables de gérer leur pays. Et là, c'est là où il y a des problèmes. C'est là où il y a des problèmes.
Merci,
là,
Victor.
La justice doit agir et vraiment une formation au niveau de la jeunesse pour que ce pays aille de l'avant. Merci.
Merci beaucoup, Victor. Nous allons terminer avec vous, Maurice. Vous êtes ici à Kinshasa. Il y a beaucoup d'appréhension dans la lecture qui est faite par les compatriotes congolais autour de cette question qui touche au travail des casques bleus. On estime qu'il y a beaucoup de choses qui devaient être faites, qui n'ont pas été faites au regard de la situation à l'Est aujourd'hui. Alors, quel est votre regard par rapport à ces travails? Mais il y a Victor qui le disait tout à l'heure, qui a aussi cette responsabilité de ce que nous-mêmes nous voulons définir et de ce que nous voulons faire par rapport à toutes ces situations qui arrivent, et la responsabilité qui doit être aussi portée par les casques bleus dans le travail à faire sur le terrain, Maurice.
Oui, merci, Pierrot, de m'avoir accordé la parole. Je salue aussi l'ensemble des auditeurs qui sont branchés à l'avocatie. Je veux dire ceci que mes prédécesseurs ont bien raison par rapport à l'analyse qu'ils font en fait de la présence en fait de la Monusco ou des cartes bleues dans notre pays. Ça fait bientôt 17 ans qu'ils sont là. Et nous devons rappeler aussi que c'est la plus grande mission en fait de Nations Unies au monde, avec 17 000 hommes et 1,5 milliard, donc 1,5 milliard de dollars américains, budget annuel de la Monusco, vraiment c'est énorme, c'est même un budget, la moitié même du budget congolais. Alors nous devons maintenant nous interroger par rapport en fait à la mission réelle. Bien sûr que nous devons aussi reconnaître qu'il y a aussi une petite confusion, il y a de l'amalgame en fait entretenu par nos compatriotes, peut-être qu'ils sont mal informés par rapport à la Monusco, raison pour laquelle j'avais dit une fois à Martin Kobler dans une des émissions Radio Capitale, plutôt parole aux auditeurs, que le volet communication en fait de la Monusco devrait être en fait consolidé et renforcé pour en fait amener les Congolais qui observent en fait la mission ou de loin qui ne savent pas réellement ce que la Monusco fait dans ce pays, puissent comprendre réellement ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent connaître. Mais nous avions quand même apprécié que Marcel Kobler était toujours aux commandes et la communication était parfaite. C'est ça qui a pu améliorer en fait l'image même de la Monusco durant en fait son mandat. Mais c'est ce que maintenant nous demandons à l'actuel Maman pour qu'il soit aussi à la hauteur. Mais dès lors que nous entendons des gens qu'il est déjà suscité, qu'il est déjà apprécié par rapport à sa collaboration avec les régimes au pouvoir, c'est là où nous nous interrogeons déjà en fait de même de la force ou même en fait de l'efficacité de la Monusco actuellement, surtout dans les contextes politiques actuels. Alors, nous sommes en train de...
Oui, Maurice, là vous avez dit seconde, Maurice, parce que l'invité doit conclure, on a qu'une minute qui nous sépare de la fin de l'émission.
Oui, c'est ce que nous disons, c'est-à-dire que la Monusco doit en fait renforcer vraiment sa mission, et parce qu'on ne peut pas estimer une mission de plus de 17 000 personnes et dont les troupes à plus de 70% sont en fait postées à l'est du pays, où nous assistons en fait à cette hécatombe, où même on accuse même la Monusco être en fait un peu passive par rapport en fait à ce qui se passe.
Voilà, merci Maurice. On revient à l'invité pour conclure, parce que là on n'a plus de temps pour aller plus loin. Maurice, on n'a qu'une minute qui nous sépare. Professeur Emmanuel Banoulessi, si vous avez suivi les uns et les autres, c'est le problème de la passivité, comme venait de le dire Maurice tout à l'heure. On voudrait voir cela à s'améliorer. On voit aussi vraiment la complicité de cette question de la collaboration entre les casques bleus, l'armée nationale. Et en une minute aussi pour conclure cet échange, professeur.
Merci beaucoup. Alors, ce que je vais dire rapidement et ce que j'ai pu noter des interventions, c'est qu'il se dégage qu'il y a une nécessité pour la Monusco d'intensifier des campagnes de formation, d'explication sur les missions des casques bleus et surtout les rapports avec les forces armées de la République démocratique du Congo pour restaurer la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire et particulièrement dans la partie est. Deuxièmement, il me semble qu'on devrait arrêter de penser que ce sont les casques bleus c'est au casque bleu qui revient exclusivement la tâche de sécuriser les populations dans les zones en conflit. Donc cette tâche revient d'abord à la République démocratique du Congo, au gouvernement de la République. Et pour ce faire, troisièmement, je pense qu'il se dégage aussi que l'on doit plutôt faire pression sur nos hommes politiques, sur nos gouvernants, pour qu'ils puissent restaurer le climat de confiance et de collaboration entre les forces armées de la République démocratique du Congo et la Monusco, pour que la paix revienne totalement dans ces régions-là.
Merci.
Voilà ce que j'avais à dire.
Merci beaucoup, professeur Emmanuel Banessizé. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le directeur général de l'école de gouvernance politique économique et COPO à Lubumbashi. Merci pour nous avoir accordé de votre temps. Merci à toute l'équipe des productions des paroles aux auditeurs. Mimi Kindou était à la mise en onde, et Jir Longembo à la réalisation et coordination. Julie Fez a été au standard. Et Pierrot et la Mèche, je vous la présenter sous la supervision de Martin Seboujangwe. Il nous reste à vous souhaiter un agréable week-end en compagnie de Paroles aux auditeurs et en compagnie des Radio Capi. On se retrouve le lundi pour un autre numéro. Au revoir.